La suite dans les idées, Sylvain Bourmont. C'est la canicule. Et qui dit canicule dit présence intensive de médecins, urgentistes notamment, dans les médias. Mais cette année, les 10 médias, et surtout les médecins, et plus largement les personnels hospitaliers, n'ont pas attendu l'actualité caniculaire pour mettre l'hôpital à la une. Depuis des mois maintenant, les alertes se multiplient, les grèves perdurent pour dire la situation impossible dans laquelle se trouve l'hôpital comme institution. Les urgences servant, comme souvent, de cas limite à valeur universelle. La casse du siècle, n'hésite pas à dire trois sociologues à propos des réformes empilées depuis des années de l'hôpital public. Deux de ces trois chercheurs, parmi les meilleurs connaisseurs de la question, sont aujourd'hui invités de la suite dans les idées. Trois sociologues donc qui signent la casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public, un livre de la collection Raison d'agir. L'un d'entre eux n'est pas là, Frédéric Pierru, mais deux sont autour de la table aujourd'hui à la suite dans les idées. Fanny Vincent, qui est chercheuse, post-doctorante au CREAPT, au Conservatoire National des Arts et Métiers, et puis Pierre-André Juvin, qui est chargé de recherche au CNRS, au CERMES 3, c'est ça. Voilà. Et donc, en deuxième partie de l'émission, c'est un médecin, mais un médecin un peu particulier qui nous rejoindra, médecin de formation, mais désormais réalisateur de cinéma, Thomas Lilti, à qui l'on doit quatre longs métrages, mais trois qui portent sur la médecine, et puis aussi une série télévisée, Hippocrate, qui reprenait un certain nombre des personnages d'un premier long métrage. Thomas Lilti nous rejoint dans la deuxième partie de l'émission. Alors, Pierre-André Juvin, je voulais aussi signaler un numéro de la revue Mouvement, auquel vous avez contribué, sur Santé, la fin du grand partage, qui tombait à pic dans cette actualité. Actualité en tout cas perçue comme telle, peut-être par le grand public, mais en fait il s'agit d'une actualité qui dure depuis des années, je le disais, empilement des réformes. Ça fait bientôt 20 ans en fait que cette crise, est-ce encore une crise à proprement parler, dure autour de la question de l'hôpital public.
C'est cela. C'est une des questions qu'on s'est posées au début de cet ouvrage sur ce concept et cette notion de crise, puisque effectivement une crise qui dure depuis plusieurs décennies n'est plus vraiment une crise. Et ce qui nous a intéressé, nous, dans ce livre et plus largement dans les réflexions que nous menons sur l'hôpital public, c'est de penser en fait la façon que les acteurs ont de lire cette crise et précisément les deux façons qui sont exposées et en fonction de à qui on parle, la crise a des origines et des solutions différentes. Et on a identifié deux pôles assez nets. Un premier pôle qui est celui des réformateurs, celui des élites technocratiques, aussi en partie des élites médicales, de certains représentants institutionnels qui parlent au nom d'une partie de l'hôpital et pour qui la crise est une crise que l'on a appelée assez clairement organisationnelle. Autrement dit, pour faire simple, le problème de l'hôpital public aujourd'hui n'est pas financier, c'est uniquement un problème d'organisation. Et on l'entend encore régulièrement, pour résoudre le problème par exemple des urgences, il n'est pas besoin nécessairement de rajouter du personnel ou des moyens, il suffit de mieux organiser à la fois les services d'urgence et le lien entre la ville et l'hôpital. Ça c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est le pôle des acteurs contestataires, notamment en grève aujourd'hui, le pôle de certains partis politiques, de certains mouvements sociaux aussi, qui considèrent eux que, sans nier la question organisationnelle et en considérant que il faut aussi repenser la place de l'hôpital dans le système de santé, il y a une urgence qui elle est très simplement financière et humaine, et que il est impossible de simplement miser sur une réorganisation à long terme de l'hôpital public, et qu'il faut immédiatement, dès aujourd'hui, réinvestir massivement dans certains services, embaucher massivement du personnel, ne serait-ce que dans les services d'urgence, et augmenter les moyens de l'hôpital public, au moins le temps que ce système de santé se restructure.
Fanny Vincent, au fond, c'est ce face-à-face que dans un premier temps vous décrivez dans le livre pour bien comprendre cet affrontement qui dure depuis longtemps, dont les formes ont pu évoluer un peu, mais grosso modo on a les mêmes positions qui ont, même à fil du temps, se sont durcies à certains égards. Vous le décrivez pour essayer d'en sortir d'une certaine façon, pour essayer de voir comment on peut reposer la question de l'avenir de l'hôpital en choisissant de n'opter ni pour l'une ni pour l'autre de ces logiques.
Exactement. Nous, ce qu'on dit, c'est que on peut très bien repenser les missions de l'hôpital, repenser les tâches qui sont aujourd'hui affectées à l'hôpital, tout en disant que l'hôpital a besoin de plus de moyens et qu'on n'a pas à arbitrer entre l'une et l'autre. Pourquoi ? Parce que l'hôpital a une mission historique et une mission sociale aussi qu'il faut prendre en compte, et du coup on ne peut pas définir, par exemple juste sur le cas des urgences, on ne peut pas définir qui va aux urgences uniquement en fonction du type de gravité, du point de vue du pronostic vital, type accident de la route, mais qu'il faut aussi prendre en compte voilà, la mission d'accueil de certaines franges de la population et les plus précarisées, et la mission d'accueil plus générale de toute la population aux urgences. Les urgences et l'hôpital public sont un service public ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Voilà. Si on veut engager un débat sur qu'est-ce que l'hôpital, si on veut définir qu'est-ce que sont les missions de l'hôpital public, il faut le faire de manière large aujourd'hui en s'interrogeant sur quelle est la place de l'hôpital dans le système de santé plus généralement.
Oui, ça veut dire ouvrir la question à celle de la santé. Et donc évidemment, la question de l'articulation entre l'hôpital et la pratique de la médecine dite de ville, même quand elle est à la campagne, de la médecine libérale, mais aussi, et ça c'est peut-être encore moins pensé, la question de l'articulation de l'hôpital avec le pôle des cliniques privées qui représentent aujourd'hui une part importante des soins et qui a vu au fil des années un phénomène de concentration, au point que certains établissements aujourd'hui sont très importants en termes de budget, en termes de personnel, et que ces établissements au fond profitent de la pratique d'un certain nombre d'opérations très standardisées qui sont pas très compliquées à faire d'un point de vue médical, qui peuvent rapporter pas mal d'argent à ceux qui les pratiquent, laissant à l'hôpital public évidemment tout le pôle de la complexité, de la recherche, des cas particuliers, des cas singuliers, des choses qui sont beaucoup plus compliquées à maîtriser d'un strict point de vue médical et qui posent évidemment des questions budgétaires très très différentes du tout venant, j'allais dire, des interventions chirurgicales en particulier. Pierre-André Juvin.
Tout à fait, et c'est quelque chose à relever dans les semaines qui viennent de passer, au moment où les mobilisations ont commencé à prendre et à s'intensifier. Les représentants des établissements privés à but lucratif, puisqu'il y a des établissements privés à but non lucratif, mais les représentants des établissements privés à but lucratif ont levé la main en disant « nous avons des structures pouvant accueillir les urgences et nous sommes prêts, évidemment moyennant financement, à prendre en charge davantage de patients et de patientes, et donc à finalement contribuer au bien commun et à soulager l'hôpital public ». Ce qui paraissait être une solution a priori plutôt sympathique. Quand on regarde dans le détail, et c'est ce que vous avez très bien dit, c'est que évidemment les cliniques privées ne prennent pas en charge tout le monde, ne serait-ce que pour des raisons de plateau technique, c'est-à-dire que l'hôpital public dispose d'un certain nombre de services en aval des urgences qui leur permet d'accueillir tout le monde, à la différence des cliniques privées qui se sont pour beaucoup spécialisées sur des segments cliniques et médicaux qui sont, et on pourra peut-être y revenir, des segments rentables. Et donc quand les cliniques privées à but lucratif disent vouloir accueillir des patients et des patientes, c'est certains patients et certaines patientes. Et en l'occurrence, à nouveau, des patients et des patientes peu coûteuses, rentables, et laissant ainsi à l'hôpital public
tout ce qui n'est pas rentable,
tout ce qui n'est pas rentable, c'est-à-dire et tout ce qui n'est pas coûteux.
C'est un double, c'est un double effet, Fanny Vincent. C'est-à-dire d'un côté, ça permet pour eux de capter un certain nombre d'actes facilement réalisables, et d'un autre côté, ça soustrait à l'hôpital public des recettes éventuellement du même coup en leur ôtant ces actes.
Absolument. Après, c'est vrai que les deux ont une histoire qui est spécifique et les missions de l'hôpital public ne sont pas les mêmes que celles des cliniques. Et en effet, comme le dit très bien Pierre-André, les cliniques sont venues s'appuyer sur un créneau bien spécifique.
Elles ont évolué ces dernières années beaucoup plus rapidement que l'hôpital public, qui reste dans des structure classique à certains égards. Ce phénomène de concentration dont je parlais en particulier du côté du pôle lucratif est l'une des caractéristiques nouvelles.
concentration et financiarisation aussi. Les cliniques privées à but lucratif sont aussi des machines à faire et à produire de la rentabilité. C'est aussi une de leur mission. Leur mission est de soigner, bien évidemment, mais elle est aussi de produire de la valeur ajoutée, comme leur représentant le dit si bien. Et donc ça pose une question qui est effectivement celle, dans un système de santé financé par l'argent public, dans un système de santé dont les principes sont la solidarité et l'universalité, de la collectivisation des pertes et de la privatisation des profits, pour parler assez clairement. Et la place des cliniques privées aujourd'hui, c'est celle-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur donne à faire et en échange de quoi?
Alors, là où les choses se compliquent en plus pour le grand public, c'est que les hôpitaux publics sont des entités relativement autonomes, mais qui dépendent de relations, on l'a vu, avec des acteurs privés extérieurs, mais aussi avec des acteurs publics différents, avec l'État, avec les agences régionales de santé, là aussi il y a eu des transformations importantes, et puis avec les municipalités qui jouent un rôle aussi dans l'administration des hôpitaux. Bref, de l'extérieur, ça semble un système extraordinairement complexe, en fait.
Oui, ça l'est, de fait. Et d'ailleurs, c'est assez révélateur de voir la manière dont est gérée la crise aujourd'hui, parce que les soignants, eux, s'adressent à leur direction d'hôpital pour avoir plus de moyens, pour essayer de faire d'accéder à leurs revendications, donc en termes de moyens, en termes d'ouverture des lits après les urgences, qu'on appelle les lits d'aval, et puis en termes de création d'effectifs. Et leur direction, eux, leur dit, mais nous, on peut pas faire grand-chose, parce que pour certaines, elles sont prises en plus dans un plan de retour à l'équilibre ou dans une dette importante. C'est auprès des ARS qu'il faut
s'adresser.
Voilà, les agences régionales de santé. Et les agences régionales de santé dépendent elles-mêmes du ministère de la Santé, donc c'est vrai que c'est pas évident. Et les municipalités, les élus publics, c'est vrai que ces dernières années, les réformes qui se sont succédées les ont de plus en plus mises à distance de l'hôpital public et de la gestion des hôpitaux publics au profit des directions des hôpitaux qui, elles, ont véritablement récupéré cette direction.
Pierre-André Juvin, pour compléter, pour rebondir sur ce que dit Fanny, il y a un mouvement qu'on observe depuis plusieurs décennies, et c'est tout le travail aussi qu'a conduit Frédéric Pierrus sur l'étatisation du système de santé et notamment du gouvernement des hôpitaux. Les hôpitaux sont de plus en plus gérés, tenus par des entités publiques et évidemment à son sommet l'État. Et c'est très important parce que, et c'est ce que disait Fanny, les professionnels de santé sur le terrain, leurs premiers interlocuteurs, ce sont les membres de la direction locale. Or, les membres de la direction, et c'est un point très important parce que on a beaucoup travaillé, nous, sur les paramédicaux, sur les médecins, sur ces catégories-là qui sont en souffrance aujourd'hui. Ce dont on s'aperçoit, et c'est ça assez nouveau, c'est que les directions d'hôpital elles-mêmes aujourd'hui sont en souffrance. Et on reçoit de plus en plus, et notamment depuis quelques semaines, de messages de directeurs et de directrices d'hôpitaux nous disant, en fait, nous aussi, on est dans une situation intenable parce qu'on a assez peu la main sur ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que l'Agence régionale de santé, qui, elle, dépend quand même du ministère de la Santé, nous donne des directives, on doit les appliquer, et on a vraiment très peu de marge. On est pris entre l'enclume des professionnels de santé et de l'hôpital et le marteau de l'État et des ARS. Et il y en a plein qui nous écrivent et qui nous disent, j'ai reçu un message comme ça, je n'ai pas fait ce métier pour voir des médecins suicidés, je n'ai pas fait ce métier pour voir des professionnels, des paramédicaux être mis en arrêt maladie et ne plus pouvoir travailler aux urgences, je n'ai pas fait ce métier pour voir des patients dormir dans les couloirs, je n'ai pas fait ce métier pour tout cela. Et donc cette révolte, cette contestation, elle s'étend au-delà des professionnels de santé, aussi aux acteurs administratifs.
Oui, c'est tout l'intérêt de votre livre qui repose sur des enquêtes que les uns les autres, vous êtes trois auteurs, avaient pu mener indépendamment d'ailleurs, et puis aussi sur toute une littérature que vous citez, que vous avez lue et qui informe cette réflexion plus générale. C'est tout le mérite de cette réflexion générale que de pas camper, je dirais, la figure du méchant directeur d'hôpital qui serait là avec son bréviaire du New Public Management pour appliquer les règles. Les choses sont souvent un peu plus complexes que ça, Fanny Vincent.
Oui, complètement. Et ce que dit Pierre-André est très juste, les directions font partie aussi des catégories qu'on aurait pu estimer comme les dominantes de l'hôpital, qui sont, elles aussi, en souffrance et qui ne se reconnaissent plus dans leur travail et qui ont à appliquer des réformes qui peuvent trouver pertinentes, mais pour lesquelles ils considèrent ne pas avoir les moyens ou qu'ils considèrent avoir beaucoup de limites et épuiser les personnels sur le terrain.
Mais est-ce à dire que ces différentes professions qui sont impliquées désormais dans cette situation trouvent mieux à se parler, à échanger qu'il y a quelques années? Est-ce qu'on voit, je dirais, cette mobilisation prendre appui sur différentes positions sociales, sur différentes professions.
Bah, c'est vrai que la grève des urgences, là, elle part des paramédicaux, donc des infirmiers, des aides-soignantes des urgences, et puis aussi d'une partie du personnel un peu plus technique de ces services-là. Et on voit que ça pose la question de la discussion avec les autres catégories, notamment avec les médecins. Il y a une partie des médecins dans certains hôpitaux qui sont en grève aussi, voire qui sont là très largement en grève, et puis d'autres qui ne suivent pas le mouvement. Alors il y a le SAMU Urgence de France, pardon, qui a fait un communiqué de soutien à la grève des paramédicaux. Il y a eu une tribune, je crois, dans Libération, de tout un tas de grands praticiens hospitaliers qui ont appelé à soutenir la grève des urgences. Mais ce ne sont pas des discussions qui vont de soi, parce que, justement, chacun est un peu dans son coin. L'organisation du travail qu'on a rationalisée au fil des années, au fil des réformes, a considérablement fragilisé les collectifs de travail, a individualisé le travail. Et du coup, même à l'intérieur des paramédicaux, ce n'est pas si évident que ça de se parler.
D'avoir une perspective globale qu'on peine à voir aussi du côté des responsables politiques. On parlait tout à l'heure, peut-être on peut y revenir un temps, Pierre-André Juvin, de l'ensemble des réformes dont vous dites dans votre livre, au fond, réformes qu'on peut dater du plan Juppé, peut-être même peut-on remonter un peu encore. En tous les cas, il y en a eu régulièrement qui ont cherché à se singulariser, mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'elles participent d'une même dynamique, qu'elles reprennent le même vocabulaire, le même lexique, mais qu'à chaque fois, il manque d'une véritable vision transformatrice qui pourrait essayer de faire ce que vous proposez, c'est-à-dire de ne retomber ni d'un côté ni de l'autre de cette alternative entre la gestion, enfin la lecture organisationnelle et la lecture budgétaire, Pierre-André Juvin.
C'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors évidemment, les différentes réformes et les différents plans pour l'hôpital ont été présentés sous des jours très très glorieux par les gens qui les portaient. Et il s'agissait de révolutionner le système de santé sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, maintenant sous Macron. À chaque fois, il y a une loi santé qui est votée avec la volonté de renverser complètement la table. Ce que nous, on observe dans le livre, c'est qu'il y a un paradoxe assez stupéfiant entre le discours qui est tenu depuis longtemps et qui consiste à remettre en cause ce qui est appelé hospitalocentrisme, et ce dont on parlait en début d'émission, c'est-à-dire le fait que l'hôpital soit au centre du système de santé et que tout y afflue, remettre en cause l'hospitalocentrisme, et de l'autre côté, un ensemble de réformes conduites depuis plus de 20 ans, effectivement, qui ont tendance à renforcer cet hospitalocentrisme, notamment en déremboursant un certain nombre de soins courants, en ne réglant pas la question de l'installation des médecins libéraux. Enfin, il y a tout un tas de réformes qui auraient pu être conduites.
On a du mal à gérer la démographie médicale.
Voilà, en n'encourageant pas l'installation dans des zones sous-occupées médicalement. Enfin, il y a tout un tas de réformes qui auraient pu être conduites pour la médecine de ville, encourager l'installation de centres de santé, par exemple. Enfin, tout un tas de choses auraient pu être faites, elles n'ont pas été faites, et au contraire, on a renforcé la place de l'hôpital et la centralité de l'hôpital public, tout en contenant de plus en plus ses moyens. Et ça renvoie effectivement là, au-delà des années 90, aux années 70 et 80, et au tournant de la rigueur et à cette idée qu'il faut gérer correctement les deniers publics et à la mise en place de tout un tas d'outils gestionnaires, comptables, à partir des années 80 jusqu'aux années 2000, qui ont eu vocation à contraindre les dépenses de l'hôpital, à les diminuer d'une certaine façon, parce que c'est toujours un point technique, mais je me permets de le faire, c'est-à-dire que ce que disent les gouvernants et les réformateurs, c'est que ce n'est pas vrai, les moyens de l'hôpital ne diminue pas, puisque effectivement, ce qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc l'enveloppe qu'on consacre à la santé chaque année, augmente d'année en année. Il augmente de 2,5%. Bon, le problème, c'est que ce chiffre pris en tant que tel ne signifie rien. Il faut évidemment le mettre en comparaison et en rapport avec l'augmentation de l'activité. Et quand on met en comparaison l'activité et l'augmentation des moyens, il y a une différence assez forte qui s'observe. Et donc, concrètement parlant, les moyens de l'hôpital public, depuis plusieurs années, diminuent.
Et c'est la même chose, si je peux me permettre, sur l'emploi. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent. L'emploi hospitalier ne baisse pas, il continue d'augmenter. C'est vrai, encore une fois, quand on regarde le volume d'emplois, il y a de plus en plus de postes qui sont créés. Alors après, il faut distinguer aussi les postes pérennes et les postes qui sont pour les contractuels et occupés par des intérimaires. Mais l'emploi augmente, sauf que l'emploi, exactement comme les moyens financiers, n'augmente pas à hauteur de l'activité. Par exemple, le chiffre du nombre de passages aux urgences est absolument édifiant à cet égard. On a doublé le nombre de passages aux urgences. urgences en 20 ans. Il n'y a pas eu du tout un doublement du nombre de soignants et ni de la taille des structures pour accueillir ces patients. Donc, en effet, l'emploi, ça a aussi été un véritable problème parce que, de fait, toutes ces réformes, c'est l'autre volet, sont parties du principe que rationaliser la gestion de l'hôpital passait en premier lieu par une rationalisation du travail et de l'organisation du travail et ce que ça impliquait financièrement. Donc, on a ouvert les boîtes noires de l'organisation du travail, le temps de travail, et on a renié de plus en plus sur les temps de chevauchement des équipes, sur les temps de pause. Ça s'est fait notamment par les multiples réformes de réduction du temps de travail qui ont été présentées comme un progrès social, mais qui ont aussi derrière contribué à intensifier le travail des soignants. Ça s'est fait par une flexibilisation de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, il y a des pôles d'activité à l'échelle des hôpitaux, donc les soignants sont mutualisés entre différents services. Ils alternent aussi des horaires de matin, d'après-midi, ce qu'on appelle de grande équipe, de jour, de nuit, des fois. Donc, il y a une interchangeabilité du personnel qui contribue à une fatigue et à une insatisfaction et à un épuisement qu'on voit aujourd'hui.
Pierre-André Juvin.
Et un point pour répondre aussi à une partie de la question que vous posiez sur le dialogue entre, en gros, les gestionnaires, les administratifs et les catégories médicales de l'hôpital. C'est un point qu'on fait aussi dans le livre, et là on parle beaucoup de gestion, de domination gestionnaire, de budget. Un point, c'est aussi de dire que cette domination gestionnaire et budgétaire, elle a aussi succédé à une autre forme de domination qui précédait, qui était la domination médicale. Et ça fait lien avec, je pense, la suite de l'émission, qu'on voit très bien notamment dans Hippocrate, c'est des formes de domination aussi à l'intérieur de la profession médicale, entre hiérarchies. Et ce qu'on essaye de dire, nous, dans le livre, c'est cette critique de la domination gestionnaire, cette critique du tout budgétaire et du principe de rentabilité, elle ne doit pas conduire à un retour en arrière avec une domination des PUPH au sein de l'hôpital, mais avec une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un hôpital public, une politique de l'hôpital public qui arrive à dépasser ces deux modes de domination et à intégrer notamment des personnes qu'on entend peu, que sont les patients et les patientes.
On en parlera sans aucun doute dans la deuxième partie de l'émission avec Thomas Lilti. Juste peut-être avant d'en venir à cette deuxième partie, Fanny Vincent, un point sur un mot qui est au cœur aussi de votre livre, la Casse du siècle, le mot d'innovation. Enfin, il est au cœur du débat parce que il est pensé comme une solution pour l'hôpital. C'est l'innovation, alors qu'elle soit technique, médicale, administrative, peu importe, l'innovation a tous les sens, qui peut être en mesure de sauver au fond l'hôpital. Ce qu'on observe en fait, c'est que cette espèce de fétichisation de l'innovation passe aussi par des modes de quantification du travail, par exemple, vous venez de le dire, mais tout nous donne l'impression finalement d'avoir pour effet de porter l'attention à des phénomènes de court terme, c'est-à-dire que mettre en place ces instruments de pilotage a pour conséquence de s'occuper du court terme, et c'est assez paradoxal, on pourrait se dire après tout, tous ces outils devraient permettre de penser à horizon 5 ans, 10 ans, 15 ans, prendre en compte un certain nombre de variables lourdes qui tiennent au vieillissement de la population, à l'évolution de pathologies chroniques, à énormément de choses. En fait, c'est tout le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on a l'impression que, moins qu'avant, les gens qui s'occupent de l'avenir de l'hôpital sont en mesure de le penser, trop empêtrés qu'ils sont avec leurs outils et les colonnes à remplir des tableurs Excel qu'ils ont sous les yeux sans doute.
Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Nous, ce terme d'innovation, on l'a envisagé donc dans un chapitre 4 à travers tous les discours technophiles, la mise en avant de la technicité. Il y a véritablement un idéal que l'innovation, les dispositifs
techniques. En gros, l'hôpital pourrait être géré par des robots, il n'y aura pratiquement plus d'accueil, voilà. Les patients arriveraient. Enfin, ça, c'est le fantasme ultime de certains par rapport à l'hôpital déshumanisé.
Exactement. Ce qui interroge beaucoup sur ce que signifie le soin et sur la valeur qu'on accorde au travail qu'effectuent les personnels. Parce que ce qu'ils disent aussi, c'est que toutes ces réformes de rationalisation de l'organisation du travail se sont faites au détriment de la part relationnelle et de la part du collectif de travail. Et ces innovations, ces dispositifs techniques, ces tablettes, ces outils connectés ne vont pas spécialement dans le sens d'un temps plus important au relationnel. Après, il y a un deuxième élément que vous avez mentionné, qui est la question des indicateurs. Et c'est vrai que, alors, il y a eu un certain nombre d'indicateurs qui ont été développés pour rendre l'hôpital rentable, pour mesurer sa productivité, etc. Mais depuis les années 90, on voit aussi des indicateurs qualité se mettre en place pour mesurer, en effet, la qualité des soins qu'on rend aux patients. Le problème, c'est que tous ces indicateurs, ils ne disent souvent rien des moyens dont disposent les professionnels pour faire correctement leur travail, et que souvent, l'indicateur cache une partie perverse qu'il provoque, et du coup, il faudrait un autre indicateur pour mesurer ce que l'indicateur en lui-même ne dit pas, entraînant lui-même un autre indicateur. Et ce qu'on dit dans l'ouvrage, c'est qu'il faut tout simplement faire confiance aux professionnels, et que c'est eux qui savent comment il faut le mieux travailler.
Et que tout ne peut pas rentrer dans des tableurs.
Et que tout ne peut pas rentrer dans les tableurs, et que l'hôpital ne peut pas être géré uniquement comme une entreprise, et à travers des tableaux d'activités et des indicateurs.
Pierre-André Juvin.
Sur l'innovation, on mobilise un cas dans le livre qui est très intéressant, qui est le cas d'une start-up qui s'appelle Around Innovation et de ce qu'elle propose, une application qui s'appelle Healthcare Active. Donc évidemment, puisque tous ces acteurs-là parlent en anglais pour qu'il y ait quelque chose d'innovant derrière cela. Et ce qu'ils proposent, c'est des tablettes en salle d'attente pour les patients qui attendent précisément. Et la présentation qu'ils en font de cet outil et de cette innovation, leur présentation, elle est explicite, elle dit les gens attendent à l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et de toute façon, il n'y aura pas assez entre les lignes, et de toute façon, il n'y aura pas plus de médecins parce qu'il n'y a pas de moyens. Et donc, ce qu'il faut pouvoir mettre en place, ce sont des tablettes qui permettent aux gens, au fond, de faire une partie du travail médical eux-mêmes, donc de lire sur la tablette, de regarder des vidéos sur ce qu'ils vont devoir faire une fois qu'ils seront rentrés chez eux.
Donc du digital labor, comme dirait Antonio Casilli, mais à l'hôpital.
Et appliqué à soi-même, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas de médecin, vu qu'il n'y a pas d'argent, en fait, on va se soigner soi-même. Et là, comme par magie, évidemment, des structures privées et des startups apparaissent en disant « ça tombe bien, nous, on a la solution ».
Alors, en fait, l'accent mis sur la technique, la technicité, tout ça n'est pas nouveau et probablement à regarder dans le long terme, par exemple, sur des choix faits de remboursement. Enfin, ça, les gens qui font des études médicales et qui se posent la question de savoir quel type de spécialité ils ont envie de faire peuvent être amenés à se dire à un moment donné que, d'un point de vue financier, en tout cas, vaut mieux probablement être radiologue que psychiatre parce que tout ce qui était investissement lourd dans des machine a été valorisée, y compris valorisée par les catégories de remboursement de la sécurité sociale, beaucoup plus que la part humaine du travail. Et les médecins généralistes en savent quelque chose dans ce pays en particulier.
C'est ce qui rend très difficile la critique de l'innovation dans ce domaine-là. C'est-à-dire qu'il y a évidemment historiquement un lien entre la médecine et la recherche qui est très étroit. Et c'est aussi un point qu'on fait en conclusion du livre, c'est-à-dire ni domination médicale ni domination gestionnaire, mais c'est aussi de dire c'est pas parce qu'on est capable de porter un discours critique sur l'enthousiasme technophile d'un certain nombre d'acteurs que pour autant on remet en cause l'intérêt du progrès médical et de la recherche biomédicale. Mais il y a un équilibre à trouver, et notamment autour de tout un tas de, et il faut vraiment mettre des guillemets à ce mot-là, d'innovation qui en fait n'ont que vocation, et je reprends le cas de Healthcare Active, qui n'ont que vocation à combler des manques, à jouer le rôle de rustine sur un système pour lequel on ne veut pas investir et sur lequel on ne veut pas recruter.
Alors, on revient dans ce monde de l'hôpital dans la seconde partie de l'émission avec le réalisateur Thomas Lilti qui vous rejoint, Pierre-André Juvin et Fanny Vincent. C'est après un extrait du nouvel album de Richard Hawley, Is There a Pill?
La suite dans les idées, Sylvain Bromont. That would help me never feel this strange again. Is there a crack inside this soul that could change and show me it's alright?
La casse du siècle, c'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. Un livre signé Pierre-André Juvin et Fanny Vincent, qui sont tous les deux mes invités aujourd'hui, et également de Frédéric Pierru. Un livre qui permet de revenir sur cette situation au cœur de l'actualité à propos de l'hôpital et de se rendre compte à quel point aussi l'hôpital est un monde social en lui-même. C'est peut-être comme ça qu'on peut vous proposer de regarder les choses. Thomas Litti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de cinéma et puis aussi d'une série télévisée qui procède d'un long métrage que vous aviez réalisé, Hippocrate, série qui connaît une première saison, la deuxième est en préparation. Avant de réaliser des films, vous avez fait 4 longs métrages, des courts avant, mais avant de faire des films, ou peut-être en parallèle pour les cours, vous avez fait des études de médecine que vous avez terminées. Vous êtes donc médecin, mais vous avez fait le choix de basculer dans le cinéma pour vous intéresser avec les outils du cinéma à ce que j'appelais un monde social.
Vous avez très bien résumé mon parcours, mais je crois que c'est très inconscient. Évidemment, tout ça n'était pas planifié, mais en tout cas, quand j'ai commencé à faire du cinéma en parallèle de mes études de médecine, j'avais pas conscience que j'allais parler de l'hôpital. Mais c'est devenu assez vite une évidence quand j'ai commencé quand le cinéma est devenu une partie de ma vie. C'est vrai que c'est compliqué de faire abstraction de ces années d'études et puis ces années de pratique quand on a plongé dans le monde hospitalier, dans la complexité, dans l'immensité sociale donc que vous décrivez, de la complexité des liens entre les médecins, les patients, évidemment, dont on parle très peu, mais aussi des médecins entre eux, des médecins avec tout le personnel soignant, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants. Et ça, à un moment donné, moi, dans mon parcours de réalisateur, de scénariste, évidemment que c'est une matière que j'ai voulu prendre en main, puisqu'en plus, il y a aussi toute cette dimension politique qui est au cœur de mon travail. Et voilà, l'hôpital incarne, je crois, beaucoup plus que juste le monde hospitalier, mais il est vraiment un reflet de la société dans laquelle on vit.
Alors, 3 longs métrages qui concernent la médecine, pas que l'hôpital. Vous avez fait un film sur un médecin à la campagne, fait un film sur les études de médecine.
Mais tout ça est lié, en fait, parce que finalement, tout revient à l'hôpital, vu qu'on est dans un monde hospitalo-centré, comme ça a été dit.
Les hôpitaux sont les universités.
Les hôpitaux sont les universités. La problématique des médecins, de la désertification médicale en milieu rural, et pas qu'en milieu rural d'ailleurs, la désertification médicale tout court finalement, parce que même en milieu périurbain c'est la même problématique, rejaillit sur les problématiques de l'hôpital et notamment des urgences. Parce qu'on peut le redéfinir, les urgences, en fait c'est la porte d'entrée de l'hôpital, c'est pas juste l'endroit où on vient quand on se fait une entorse. Évidemment, ça semble évident, une entorse, une fracture, bon, on nous met un plâtre, on repart. Non, le problème des urgences surtout, c'est que derrière, c'est la porte d'entrée pour après que le malade soit hospitalisé et pris en charge. C'est là que ça met aussi en route tout un système, toute une problématique de la rentabilité du patient, etc.
Alors vous avez entendu les deux sociologues
Ça fait du bien d'entendre ça, ça fait du bien. Parce que, non mais je tiens à le dire, parce que moi je peux faire un constat, j'ai vécu l'hôpital, etc. Mais je ne suis pas chercheur, je ne suis pas capable d'analyser, je n'ai pas fait ce travail. Et qu'il y ait des chercheurs, des gens qui vont avoir à faire une analyse comme ça transversale, sans a priori, sans préjugés, d'essayer de comprendre, de rencontrer les gens et puis d'étudier à la fois le personnel soignant, mais aussi l'administration, les réformes politiques au fur et à mesure des différents gouvernements. Assez passionnant, et puis ça donne un peu de crédit à ce que nous, que ce soit moi en tant que réalisateur ou les gens que je rencontre ou dont j'essaie d'être le témoin, on raconte du concret de ce qui est vécu dans les hôpitaux. D'un seul coup, on se dit oui, il y a une cohérence, quoi. Voilà, on s'invente pas toute cette histoire, quoi, que ça va vraiment mal.
Pierre-André Juvin, à l'inverse, j'imagine que quand vous voyez les films de Thomas Litti, vous dites que c'est assez formidable de pouvoir incarner à travers des personnages des choses qui peuvent paraître arides, des catégories, des concepts, des choses générales. En fait, tout ça concerne le quotidien de personnes et de catégories de personnes qu'on voit à travers des individus singuliers qui sont certes des personnages de fiction, mais qui résonnent pour beaucoup.
Oui, en miroir, les œuvres de Thomas Litti sont, enfin, moi, je les ai vues comme ça avec beaucoup d'intérêt. Ce sont des œuvres aussi sociologiques qui montre tout ça. Et deux exemples. Le premier, c'est celui de la série Hippocrate, où on voit notamment ce que nous, on étudie dans le livre, c'est-à-dire la flexibilisation accrue des professionnels de santé à qui on demande d'être capable de se déplacer d'un service à un autre, de faire une tâche puis une autre, et des tâches des fois très différentes qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprendre, et donc ce qui peut conduire à des drames, ce qu'on voit dans la série. Et le deuxième exemple, c'est pas Hippocrate, c'est Première année, le film sur les études de médecine, il me semble, où il y a une lecture en termes de classe sociale qui est évidente, c'est-à-dire que la réussite aux études de médecine n'est pas que fonction du travail acharné des uns et des autres, mais aussi de quel milieu on vient, dans quelle disposition on est, même s'il y a évidemment des exceptions, et le film le montre aussi très bien, mais on voit qu'il y a des conditions sociales dans lesquelles la réussite universitaire et donc la réussite médicale et la reproduction du corps médical est quelque chose d'assez évident aujourd'hui, se fait aujourd'hui en France.
Et je me souviens vous avoir entendu Thomas Lilti dans les matins de Guillaume Erner sur cette chaîne à propos de ces études de médecine, de leur réforme et du caractère éminemment social, en effet, de la sélection.
Oui.
C'est toujours un sujet. Vous pensez qu'on va pouvoir trouver une forme de solution, parce que c'est un bon sujet pour illustrer ce dont je parlais tout à l'heure, de la logique court-termiste dans laquelle on est. L'État semble incapable d'avoir une vision à horizon 15 ans ou 20 ans. Or, il y a rien de plus simple pour quand on veut faire de la prospective que la démographie. Ce sont des phénomènes avec des inerties très fortes. Et s'il y a un domaine sur lequel on peut un peu jouer Madame Soleil, c'est la démographie quand même.
Ouais, mais c'est ça qui est très surprenant, c'est qu'on alors pour les la formation des médecins, on n'a pas du tout su, on est toujours un peu à côté de la plaque, quoi. En effet, là, on ne sait pas comment faire. Alors, c'est très marrant, vous faites référence à cette émission sur cette même antenne, et il y avait Frédéric Vidal, la secrétaire d'État, je crois,
au sens supérieur.
Votre ministre à tous. Et c'est vrai que ce jour-là, elle n'a pas du tout parlé, quoi. Elle n'était pas venue, évidemment, pour commenter mon film. Mais il se trouve que le lendemain, le gouvernement a annoncé la fin du numerus clausus, donc le fait qu'on allait ouvrir la sélection des médecins au plus grand nombre. Et puis finalement, depuis cette annonce, c'est pas passé grand-chose. On ne sait pas exactement, en tout cas, ce qui va se passer. Donc, comme quoi, il y a des effets d'annonce. On sent bien que les gouvernants ont conscience du problème, mais comment faire ? C'est très surprenant. On ne sait pas faire autrement, en tout cas, que ce système élitiste qui passe par une sélection drastique. Et finalement, former trop peu de médecins. Et c'est toujours cette inquiétude. Faut rappeler quand même que si on a créé le numerus clausus, c'est avant tout pour diminuer les dépenses de santé. On a dit, il y a trop de médecins, on dépense trop les Français dépensent
trop d'argent. Donc moins de médecins, ça voudra dire moins de dépenses.
Moins de dépenses, et ça n'a pas fonctionné. Parce que le problématique des dépenses de santé est toujours au cœur du problème. Donc ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y a toujours assez de médecins, qu'il y en a plus qu'avant, mais comme ça a été finalement assez bien dit par les chercheurs, les sociologues, c'est que, en effet, peut-être qu'il y a plus de médecins, mais comme il y a plus de dépenses de santé, la démographie a augmenté, comme l'accès à la santé, à l'hôpital est plus important, plus la misère sociale a augmenté, le chômage, quoi, plein de choses qui font que les gens vont plus à l'hôpital aussi, ou les gens n'ont pas accès aux soins comme avant par les médecins libéraux, donc se tournent vers l'hôpital. Voilà, peut-être qu'il faut former plus de médecins. Et revient aussi le gros problème, je pense, qui est au cœur finalement de tout, c'est la démographie médicale. C'est-à-dire que les médecins ne sont plus là où on a besoin d'eux. Et ça, pareil, l'impuissance des politiques, peut-être aussi des résistances, il faut remettre en question aussi les professionnels de santé, peut-être une résistance aussi des professionnels de santé pour aller exercer là où on a besoin d'eux. Donc le but n'est pas de trouver un coupable, mais qu'à un moment donné, il va falloir trouver
des dispositifs incitatifs pour être imaginés. Fanny Vincent, sur oui.
Si je peux me permettre d'ailleurs, juste un parallèle, c'est exactement la même chose avec l'université d'un point de vue plus global. Hein. Si on regarde les études démographiques, on voit très bien qu'il y a une explosion du nombre d'étudiants, quand de l'autre côté, en particulier dans nos disciplines en sociologie, il y a en moins de postes.
De manière générale, en sciences sociales.
Et exactement. Après, sur ce point-là des pouvoirs publics et de la liberté d'installation et des déserts médicaux, c'est vrai que historiquement, les médecins libéraux se sont construits contre l'État et contre la sécurité sociale. Et c'est quelque chose qui est toujours difficile pour les pouvoirs publics de se confronter au syndicat des médecins libéraux et de sortir de ces mesures incitatives qui ne produisent pas beaucoup d'effets pour les contraindre notamment à aller s'installer dans des zones qu'on appelle sous-dotées aujourd'hui. Aussi, l'autre question, c'est celle des dépassements d'honoraires, par exemple. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites également, mais pareil, il n'y a pas grand-chose qui a porté ses fruits non plus en termes d'accessibilité, là, financière des médecins.
Thomas Lilti, comment on fait quand on écrit, alors prenons l'exemple d'une série, parce que ça permet peut-être d'aborder davantage de sujets qu'un long métrage, j'imagine, et en particulier de les distinguer, parce qu'il y a des épisodes, et comment on fait pour, quand on a envie de prendre en charge des questions de politique publique, quoi, des dossiers, est-ce que on raisonne comme ça ou...
Et bah, pas du tout, en fait, je crois que c'est ça qui est assez étonnant. Alors, la série, plus que le film, vous avez raison, me permet de parler finalement beaucoup plus de politique ou du moins d'être
le reflet. Prendre en charge des thématiques sociales, etc.
Mais ce qui est au cœur en fait de mon travail, c'est le romanesque. Hein, c'est l'envie de raconter des histoires et de divertir. C'est assez futile finalement. Je me pose pas beaucoup plus de questions que ça. Et puis en fait, je crois que ça devient efficace la thématique sociale de la prendre en charge à partir du moment où elle est englobée justement dans ce romanesque, elle est derrière. Et puis évidemment, le romanesque pour le romanesque, à un moment donné, ne me suffit pas, ne m'intéresse pas tant que ça. Donc il a besoin d'aller puiser dans la réalité de l'hôpital, de ce que c'est qu'aujourd'hui, de ce que c'est qu'être un soignant, de ce que c'est le lien entre le soignant et le patient.
Et puis il est nourri par votre expérience, mais j'espère, vous continuez à écouter, à rencontrer, vous avez gardé des liens, j'imagine, avec ce monde médical.
Oui, j'ai des liens, je suis au fait de ce qui se passe, j'essaie d'écouter, je suis entouré d'auteurs qui écrivent avec moi et qui ne sont pas du tout médecins, mais qui pourraient quasiment pratiquer aujourd'hui tellement ils ont appris sur le terrain. On est allé encore voir un service d'urgence il y a quelques mois. On a passé du temps dans le service pour comprendre les problématiques actuelles. Il y a eu des soucis à la Rivoisière. On a une patiente qui est décédée parce qu'elle n'avait pas été vue. Ça, on a envie de comprendre pourquoi, comment on oublie un patient dans un service d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Où est le dysfonctionnement? Comment vivent les soignants face à la disparition d'un patient? Parce que moi, ce qui m'intéresse, par exemple, dans la souffrance au travail, évidemment que c'est romanesque de montrer des gens qui souffrent, mais il faut-il comprendre pourquoi ils souffrent? Parce que sinon, c'est pas très intéressant. Et la souffrance au travail, ce que souvent on ne dit pas, c'est pas tellement le fait de trop travailler ou de travailler, c'est surtout de mal travailler. C'est que les soignants le disent, ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail comme ils souhaiteraient le faire, ce qui est quand même terrible.
Pierre-André Juvin, d'un mot, on arrive au terme de l'émission.
Et un autre point, et ça me permet de redire qu'il faut absolument regarder cette série, ce qu'elle montre très bien, ce sont tous les patients que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte. Et tous les patients qui sont des cas, qui sortent du standard, qui sortent de la prise en charge normale et lambda et anticipée. Et dans la série, on le voit très bien avec un patient qui vient pour une cirrhose du foie et dont on ne sait pas trop quoi faire, qu'il faut surveiller, qu'il faut faire rentrer et ressortir. Enfin, on voit tous ces patients qui vont à l'hôpital public et encore une fois qui ne vont pas dans les cliniques.
Merci Pierre-André Juvin, Fanny Vincent. Je rappelle qu'avec Frédéric Pierru, vous avez écrit La casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public qui paraît chez Raison d'agir. On trouve la référence bibliographique sur la page de La Suite dans les idées, sur le site de France Culture. Puis on trouvera aussi peut-être les liens vers les lieux où on peut voir la série Hippocrate et puis les longs métrages, les trois longs métrages qui concernent la médecine qu'on doit pouvoir voir aussi en VOD, j'imagine, sans trop de problèmes. Merci à tous les trois pour cette émission, la dernière de cette saison.
Merci beaucoup.
C'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production, Chouchane Djergaillan. À la technique aujourd'hui, Éric Boisset. À la réalisation, Massimo Bellini. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture.